Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale pour la présidentielle du 31 octobre s'ouvre ce jeudi et l'opposition a une nouvelle fois laissé planer le doute sur sa participation à l'élection. Les explications d'Abdourahmane Dia dans quelques instants. Et en République centrafricaine, l'inscription sur les listes électorales pour la présidentielle et les législatives est achevée, mais l'opposition conteste le maintien des scrutins à la date du 27 décembre. Nous y reviendrons également avec Jacques Aristide. En RDC, la journaliste Rosène Kalafulo a dit mercredi à l'AFP se cacher depuis une semaine après une remarque sur des officiers de l'armée concernant la sécurité dans le Nord Kivu lors d'une conférence de presse du président Félix Tshisekedi à Goma le 8 octobre. La rédactrice en chef de Pôle FM à Goma a indiqué en préambule à sa question que des militaires étaient accusés par la société civile de faire le commerce du bois et du cacao ou d'être de mèche avec des groupes armés, a-t-elle dit. Et selon Reporters sans frontières, des témoins lui ont confié avoir surpris une conversation au cours de laquelle des hauts gradés auraient menacé de s'en prendre à elle. RSF et son partenaire congolais Journaliste en danger dénoncent de telles menaces et demandent aux autorités de garantir la sécurité de notre consoeur. Les États-Unis ont approuvé mercredi un traitement aux anticorps de synthèse contre Ebola développé par la société de biotechnologie Regeneron et qui a montré avoir réduit de façon significative le taux de mortalité des malades. Il utilise la même technologie que celle employée pour développer un traitement expérimental contre le COVID-19 que le président américain Donald Trump a reçu après avoir été infecté. Barron Trump, 14 ans, fils du président Trump et de Melania Trump, a lui aussi été testé positif au COVID-19, a annoncé mercredi la première dame des États-Unis, indiquant qu'il était depuis de nouveau négatif. Face au regain de la pandémie, les pays européens ont encore durci mercredi leurs mesures de protection, en France notamment, où plusieurs grandes villes dont Paris, soit près de 20 millions d'habitants, seront soumises à partir de samedi à un couvre-feu nocturne. De fortes restrictions ont également été instaurées en Irlande du Nord, en Irlande, en Catalogne et aux Pays-Bas. Les 20 pays les plus riches du monde, ceux du G20, ont prolongé mercredi de 6 mois jusqu'au 30 juin prochain le moratoire sur la dette des pays les plus pauvres durement affectés par la pandémie de COVID-19, une mesure jugée insuffisante par des ONG. Suite à l'annulation de leur deuxième débat télévisé et à 19 jours de la présidentielle américaine, le président Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden répondront ce jeudi soir en direct aux questions des lecteurs, mais chacun sur une chaîne différente. Un navire de guerre américain a croisé mercredi dans le détroit de Taïwan. Dans le respect du droit international, a annoncé la US Navy, une opération dénoncée comme une provocation par la Chine qui revendique sa souveraineté sur ce bras de mer. Pour la US Navy, le passage du bateau dans le détroit de Taïwan prouve l'engagement des États-Unis pour une région Indo-Pacifique libre et ouverte. Un porte-parole de l'armée chinoise a lui réagi en ces termes. Les États-Unis ont envoyé ces derniers temps, je cite, plusieurs signaux inopportuns aux partisans de l'indépendance de Taïwan, compromettant gravement la paix et la stabilité. Fin de citation. Pour leur part, les États-Unis voient ce bras de mer comme faisant partie des eaux internationales, donc ouvert à tous. L'annonce du choix de l'actrice israélienne Gal Gadot pour incarner Cléopâtre à l'écran a enflammé les réseaux sociaux où Hollywood est une fois encore accusé de blanchiment sur fond de débats historiques. La suite de nos informations. En Côte d'Ivoire, l'opposition a une nouvelle fois laissé planer le doute sur sa participation à la présidentielle du 31 octobre. Elle n'a toujours pas retiré auprès de la commission électorale indépendante ses spécimens d'affiches et de bulletins de vote, alors que la campagne électorale s'ouvre ce lundi. Abdourahmane Dia.
L'aile du Front populaire ivoirien, dirigée par l'ancien premier ministre et candidat d'opposition Pascal Affingesson, a également appelé hier ses militants à ne pas retirer les cartes d'électeurs. De son côté, Maurice Kakou Gekaoué, numéro 2 du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, indique que pour le parti d'Henri Konan Bédié, la CEI n'existe plus en tant qu'organe compétent chargé de l'organisation de la présidentielle. Les représentants de M. Bédié et Affingesson ne se sont toujours pas présentés pour retirer les spécimens, reconnaît le responsable de la communication de la commission électorale, Enza Kikbafori, mais ils peuvent toujours venir les chercher. Selon lui, la loi fait obligation à la commission de délivrer 10 000 spécimens de bulletins de vote et 100 000 affiches aux quatre candidats en liste pour la présidentielle, a-t-il expliqué. Mais le retrait des spécimens n'est pas indispensable pour participer à l'élection. L'opposition a suspendu sa participation à la commission électorale indépendante. La candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat a provoqué des violences qui ont fait une quinzaine de morts depuis le mois d'août.
L'inscription sur les listes électorales pour la présidentielle et les législatives en République centrafricaine, pays en guerre civile depuis 7 ans, est achevée. C'est ce qu'a annoncé mercredi l'organe chargé de les organiser, mais l'opposition conteste le maintien des scrutins à la date du 27 décembre. Jacques Aristide.
Le régime du président Faustin Archange Touadéra, qui brigue un second mandat, répète qu'il veut maintenir cette date prévue par la Constitution pour le premier tour. Mais la COD 2020, une coalition de l'opposition emmenée par François Bozizé, le chef de l'État, renversé par un coup d'État en 2013, réclame depuis des semaines un report, invoquant notamment les retards et le caractère incomplet de l'enrôlement des électeurs dans un pays aux deux tiers, sous la coupe de groupes armés. L'Autorité nationale des élections, ou l'ANE, a indiqué hier que l'enrôlement des électeurs était terminé, qu'il restait quelques poches dans les zones d'insécurité, mais qu'elle allait recevoir les derniers fichiers. L'instance est fortement critiquée pour des retards et son incapacité à enregistrer les quelques 300 000 centrafricains réfugiés dans les pays voisins. La COD 2020 a dénoncé hier l'entêtement de l'ANE sous la pression du gouvernement, dit-elle, à tenir des élections bâclées à la date prévue et l'opposition, ajoute-t-elle, prend à témoin la communauté nationale et internationale de conséquences que personne ne saurait prévoir. Réplique du porte-parole du gouvernement, la COD 2020 va de prétexte en prétexte, mais nous travaillons toujours dans l'objectif d'avoir des élections à date, étape après étape, et nous sommes sereins, a rétorqué Ange-Maxime Kazaghi, en ajoutant que dans la plupart des autres pays, les réfugiés ne votent pas.
L'Azerbaïdjan a annoncé avoir frappé des sites de lancement de missiles sur le territoire arménien, faisant craindre une escalade du conflit dans la région séparatiste du Nagorno-Karabakh. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
Pour le 5e jour consécutif et malgré les appels de Moscou comme des Occidentaux, le cessez-le-feu négocié en Russie, censé être en vigueur depuis samedi, est resté lettre morte. Pour la première fois, l'armée azerbaïdjanaise a annoncé avoir bombardé des systèmes de lancement de missiles déployés sur le territoire arménien et qui, selon Bakou, servaient à viser l'Azerbaïdjan. La porte-parole de l'armée arménienne a confirmé les frappes sur son sol, mais démentit toute volonté de viser des zones civiles en Azerbaïdjan, précisant toutefois qu'Evran se réserve le droit de cibler toute installation militaire et tout mouvement de combat sur le territoire de l'Azerbaïdjan. Le Nagorno-Karabakh, territoire majoritairement peuplé d'Arméniens, a fait sécession de l'Azerbaïdjan peu avant la dislocation de l'URSS. Bakou accuse depuis l'Arménie d'occuper son territoire et les heurts armés y sont réguliers. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev jure de reprendre le contrôle de ce territoire par la force si nécessaire. Les belligérants se rejettent la responsabilité de ces nouvelles hostilités qui ont fait plus de 620 morts selon des bilans partiels, l'Azerbaïdjan ne communiquant pas les décès parmi ses troupes.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La Guinée a lancé les travaux de modernisation de l'aéroport international de Conakry pour une durée de 27 mois. Ce projet, estimé à 150 millions d'euros, permettra d'accroître la capacité des infrastructures aéroportuaires qui pourront recevoir 1,5 million de passagers à l'horizon 2030. Selon Financial Afrique, ces nouvelles infrastructures seront exploitées par la SOGEAG, la nouvelle société née de la convention de concession Africa 50 ADP État guinéen et qui remplace d'office l'ancienne SOGEAC. Le FMI et la Banque mondiale ont ouvert leur réunion annuelle ce mercredi avec un nouvel appel aux pays riches d'aider les plus pauvres à faire face aux ravages du nouveau coronavirus. Les dirigeants des deux principaux prêteurs d'urgence du monde ont aussi insisté sur la nécessité pour les gouvernements de continuer à soutenir les entreprises et les travailleurs ayant perdu leur emploi afin d'empêcher l'aggravation de la situation financière. Pour terminer, la demande mondiale de brut pourrait retrouver ses niveaux d'avant le coronavirus d'ici à 2022, a déclaré la compagnie saoudienne du pétrole, alors que l'Agence internationale de l'énergie estime que la consommation mondiale du brut devrait revenir au niveau d'avant la crise en 2023, à condition que la pandémie soit maîtrisée. La demande de l'or noir a connu une baisse sans précédent de 8% cette année.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La saison de football 2020-2021 a été lancée hier en Guinée. L'AS Kaloum s'est imposé d'entrée 2-1 face à Saint-Toba. Mamadou Bangoura a inscrit le premier but de la saison sur pénalty. Mohamed Koumbassa de Saint-Toba a égalisé sur coup franc. Mais en seconde période, Kaloum a repris l'avantage sur un coup de pied arrêté. Un coup franc savamment exécuté par Aboubakar Iyangasila. Deux faits marquants durant ce lancement de la saison. La Ligue 1 s'appellera désormais Ligue 1 Salam. Et la Ligue professionnelle de football de Guinée a signé un contrat de sponsoring avec le groupe Sonoco pour une valeur de 1,8 million d'euros sur 5 ans. La Sierra Leone a annoncé 3 cas positifs au Covid-19 dans sa délégation. Le capitaine Oumarou Bangoura, Philippe Kor, préparateur physique et Eric Batilo-Fomba, chargé de communication de l'autorité des sports. Ces cas se sont révélés après le match amical contre le Niger. Et d'après la Fédération Sierra Leonaise de football, tous les autres membres de la délégation sont négatifs. La Sierra Leone a perdu le match 0-1 devant le Niger. Une deuxième défaite dans cette trêve après celle face à la Mauritanie, 1-2. En Europe, testé positif mardi au Covid-19, Cristiano Ronaldo a quitté le camp de base de l'équipe du Portugal dans la banlieue de Lisbonne pour retourner à Turin, en Italie. Ronaldo est donc forfait pour la rencontre contre la Suède à Lisbonne en Ligue des Nations. La semaine dernière, avant le déplacement en France, deux autres joueurs portugais ont été testés positifs, le gardien lyonnais Anthony Lopez et le défenseur lillois José Fonte. Toujours en Europe, l'auteur de la Panenka est sorti de l'hôpital. L'ancienne gloire du football tchèque Antonin Panenka était hospitalisé après avoir été contaminé par le Covid-19. « Je suis allé chercher mon père à l'hôpital et je l'ai ramené à la maison », a dit son fils Thomas Panenka sur le site internet des Bohémiens, le club de Prague où le célèbre milieu de terrain a joué. Panenka, 71 ans, s'est rendu célèbre en remportant l'Euro 1976 avec la Tchécoslovaquie. C'est en finale contre l'Allemagne qu'il a réussi le fameux pénalty décisif d'une balle piquée au centre du but, un geste qui porte depuis son nom.
Gibourg avec vous, je vous donne rendez-vous demain dans À votre avis, votre émission de débat à 18h05, temps universel sur VOA Afrique. À 6 mois de la présidentielle au Bénin, aucun opposant ne remplit les critères pour être candidat. Il faut 16 parrainages de députés ou de maires. Or, seuls 6 maires dissidents ont été élus lors des municipales d'avril 2020, boycottés par une partie de l'opposition. S'agit-il d'un recul démocratique, d'un recul des libertés dans ce pays longtemps dépeint comme un modèle en Afrique? Vous souhaitez participer? Laissez-nous vos réactions, vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique et nous vous rappellerons.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sédounia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, les jeunes représentent plus de la moitié de la population. Leur trouver des emplois sera l'un des chantiers prioritaires auxquels devra faire face le futur président. À quelques jours de la fin de la campagne présidentielle, notre correspondant est allé à la rencontre de certains jeunes à Conakry. Vous allez les entendre dans ce reportage de Zakaria Camara. Certains ont choisi leur candidat.
À l'université, je fais économie et là, je me retrouve à vendre des produits dans une boutique.
Aboubakar fait partie des 60% de jeunes touchés par le chômage ou le sous-emploi. En attendant de trouver mieux, ce jeune de 26 ans fait le commerce de détail.
Mes études professionnelles universitaires ne coïncident pas avec l'emploi que j'ai actuellement. Je n'ai pas eu un bon emploi et puis que rester à la maison, je pense que ça ne satisfait pas exactement tous mes besoins, mais alhamdoulilah quand même, je m'en sors petit à petit.
En 2014, le gouvernement guinéen a lancé le projet « Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes » pour résorber le taux du chômage chez les jeunes diplômés des universités et institutions de formation technique et professionnelle. Mohamed gère des opérations de transfert de crédit d'appel téléphonique dans un petit conteneur. Pour lui, le gouvernement doit faire bien plus.
Je pense que c'est le rôle régalien aussi de l'État d'aider les jeunes, de créer les emplois pour la jeunesse. Ce n'est pas moi seulement mon cas qui me préoccupe, mais aussi j'ai des jeunes aujourd'hui qui sont dans les quartiers, qui ne font rien, qui sont là, qui n'ont pas eu cette idée de créer, en tout cas des petits témoins, des entreprises se débrouiller. Mais eux, ils sont là, ils attendent toujours l'État. Donc, j'en demande à l'État de créer les conditions d'emploi pour la jeunesse.
Dimanche, des violences à connotation politique ont été signalées à Cancan, une ville située à plus de 650 km à l'est de Conakry. Une situation que dénonce Ibrahima Khalil, la trentaine, qui appelle à une prise de conscience des jeunes Guinéens.
Ce qui se passe actuellement en Guinée, c'est un peu compliqué et c'est pitoyable aussi pour nous jeunes, les futurs cadres de ce pays. Donc on doit se retenir pour bien comprendre notre candidat dans le sens positif et les accompagner dans ces projets de société.
C'est la dernière ligne droite avant le premier tour de l'élection présidentielle prévue le 18 octobre. Ce jeune sans emploi a déjà choisi son candidat parmi les 12.
Je pense que la jeunesse doit avoir conscience de la réalité de ce qui se passe actuellement dans le pays. Parce que c'est à eux de décider maintenant l'avenir de ce pays et de savoir surtout bien décider avec qui accompagner dans cette campagne électorale. Vu que j'ai vu beaucoup de pronostics qui tournent vers mon candidat une fois au pouvoir et faire en sorte que des entreprises soient créées afin de pouvoir employer tous les jeunes, surtout diplômés. Et vous savez, il y a beaucoup de jeunes diplômés.
5 millions de Guinéens sont appelés à voter dimanche 18 octobre pour élire le président de la République. Et contrairement à la CEDEAO et l'Union africaine, l'Union européenne ne va pas déployer des observateurs en Guinée. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Les proches d'un groupe de demandeurs d'asile camerounais en voie d'expulsion des États-Unis insurgent contre cette décision, affirmant que ces personnes risquent la persécution à leur retour au pays. D'autres Camerounais affirment que ces exilés doivent être traduits en justice pour leur implication dans le conflit séparatiste des régions anglophones. Les médias d'État camerounais voient, eux, un aspect positif à ce retour forcé des demandeurs d'asile. De Douala, reportage de Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Nani Talani.
Une vingtaine de personnes se sont rassemblées mercredi à l'aéroport international de Douala pour attendre leurs proches devant être expulsés des États-Unis. Jennifer Monet, âgée de 27 ans, dit craindre pour son frère aîné. Ce dernier avait fui les violences dans les régions anglophones l'année dernière, dit-elle.
Vous avez peur, soit des combattants séparatistes, soit des militaires. Et lorsque vous quittez ces régions pour les zones francophones, on vous perçoit comme un séparatiste. Et vous quittez le Cameroun pour les États-Unis en vue peut-être de chercher asile. Pourtant, l'on veut vous renvoyer au Cameroun où vous n'avez pas la paix, aucune liberté. C'est une violation des droits humains.
Monet dit qu'elle cherche un autre pays d'accueil pour son frère et elle. Le gouvernement camerounais n'a confirmé ni les expulsions ni l'arrivée des expulsés à Douala. Mais la radio-télévision d'État, la CRTV, a annoncé cette semaine l'arrivée mercredi de 126 demandeurs d'asile à bord d'un vol spécial en provenance de Dallas au Texas. 86 seraient camerounais et les autres originaires de la République démocratique du Congo. Au mois d'août, des manifestations appuyées par le gouvernement ont eu lieu devant l'ambassade américaine à Douala. Les protestataires exigeaient des États-Unis qu'ils inculpent ou expulsent les Camerounais présents sur leur territoire et soupçonnés de soutenir les séparatistes anglophones. L'activiste Hilda Manga a pris part à ces manifestations. Elle estime que les personnes expulsées des États-Unis doivent faire l'objet d'enquêtes et être punies s'il s'avère qu'elles soutenaient les rebelles anglophones.
C'est une grande initiative qui doit être applaudie parce qu'il était temps que ces gens soient rapatriés pour répondre de leurs crimes. Ils doivent revenir au pays pour que nous voyons ensemble comment mettre un terme à la crise qui fait souffrir les populations depuis 4 ans.
La radio-télévision d'État camerounaise n'a pas précisé si les demandeurs d'asile seront arrêtés à leur retour, mais a présenté leur arrivée sous un angle positif. Selon la station, le pays a besoin de ces exilés pour la reconstruction nationale et les autorités ont dépêché des experts médicaux pour les assister avant et durant leur expulsion.
Dans le cas de nombreux Camerounais demandant asile aux États-Unis, ils ont fui le pays par crainte des attaques gouvernementales. Beaucoup sont originaires des régions anglophones en proie au conflit. Ont soutenu des partis d'opposition ou s'étaient exprimés contre le mauvais bilan des autorités en matière des droits humains, nul doute qu'ils feront face pour la plupart aux représailles du gouvernement à leur retour.
L'Agence des Nations Unies chargée de l'immigration a comme politique de ne pas commenter les expulsions avant qu'elles n'aient eu lieu. Les Camerounais expulsés étaient entrés illégalement aux États-Unis après avoir traversé l'Amérique du Sud et le Mexique. L'administration a durci sa position contre l'immigration illégale, rendant difficile l'obtention de l'asile politique. Le conflit opposant l'armée camerounaise aux séparatistes dans les zones anglophones du nord-ouest et du sud-ouest a fait plus de 3 000 morts et un demi-million de déplacés et réfugiés, selon les Nations Unies.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Cameroun toujours, les utilisateurs d'un nouveau téléphone portable ou d'une tablette vont payer les droits de taxes douanières à compter de ce 15 octobre. La collecte numérique s'élève à 33% de la valeur du téléphone à sa sortie d'usine. La décision a été instaurée par les douanes camerounaises. Mais cette initiative est vivement contestée, nous dit notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jules Tap.
Nous sommes au lieu dit ancien 3e à Douala, un marché dédié à la vente des téléphones dans la capitale économique. Ici, les boutiques sont achalandées sur les deux côtés de la rue. Adeline est une jeune étudiante rencontrée sur place. Elle a déjà l'esprit à la nouvelle taxe douanière en vigueur dès le 15 octobre.
Les taxes là, on ne va pas s'en sortir. Ce 33%, le niveau des taxes est trop élevé.
Dans ce marché, la vente des téléphones a fait naître plus des activités connexes. Loïc est un jeune vendeur de puces. Il redoute déjà un coup sur son business après l'application de la nouvelle taxe.
Et si l'État applique, les importateurs réduisent le prix, là c'est bon. Mais acheter un téléphone à 50 000 au même prix et arriver dehors et payer encore 5 000, ça revient à 55 000, c'est trop cher.
L'inquiétude a aussi gagné le camp des importateurs et revendeurs de téléphones au sujet notamment des retombées de cette taxe sur le chiffre d'affaires.
On ne s'en sort pas sur le coût douanier normal au niveau du fret à l'importation. Nous impliquer encore une taxe de 30%, je pense que ce n'est pas une bonne affaire pour nous les revendeurs.
De sources officielles, aujourd'hui moins de 100 millions de francs CFA sont collectés mois à l'importation des téléphones. Pourtant, au cours de la période allant de 2001 en 2015, les douanes ont, au titre de la taxe sur les téléphones et terminaux numériques, engrangé les recettes de près de 25 milliards de francs CFA. Guy Innocent Difoué, chef de cellule législation aux douanes camerounaises.
Tous ceux qui vont se connecter pour une première fois recevront un message
leur indiquera le montant des droits et taxes attendus. Si le concerné dispose de suffisamment de crédit dans son téléphone, il pourra valider la première option. Celui qui ne dispose pas de suffisamment de crédit pourra valider la seconde option qui est paiement échelonné.
Les paiements vont se faire sur une plateforme numérique interconnectée avec les serveurs et les systèmes des réseaux des opérateurs téléphoniques. Ce que dénoncent les associations de consommateurs.
Nous appelons les consommateurs à refuser d'adhérer à cette méchanceté gouvernementale.
Dès lors, Magellan Kamgeng, président de la Ligue camerounaise des consommateurs.
Les organisations de consommateurs n'ont pas été associées à l'élaboration de ce texte, comme l'exige la loi cadre numéro 2011-012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun. Le gouvernement n'a pas également informé les consommateurs, il n'y a pas eu de campagne d'information du consommateur comme l'exige la même loi. Du coup, vous trouvez que le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs.
Selon des statistiques du gouvernement, environ 4 millions de téléphones et terminaux numériques sont écoulés sur le marché local par an. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
RDC, la question de la commune de Minembwe, rattachée aux populations rwandophones Banyamulenge du Sud Kivu, provoque des tumultes dans le pays. Des marches et des manifestations ont eu lieu ce mercredi dans divers endroits, y compris à Kinshasa, la capitale, où les manifestants ont été dispersés par la police. Pour une analyse, Eddie Isango a joint dans la capitale congolaise le professeur de communication Joseph Adolphe Voto. C'était le professeur Joseph Adolphe Voto, professeur de communication à Kinshasa.
Le fait que cette manifestation soit empêchée par le gouverneur de la ville et puis réprimée par la police n'étonne pas parce que depuis 97, depuis que le pouvoir de l'AFDL est là, avec l'accord de l'Emera, c'est pratiquement le même système qui continue aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer qu'il y a un deal entre Tshisekedi et Kabila et donc le secteur de la sécurité et tout ça est resté le même et qui répond à cet accord qui a été effectué depuis l'Emera et qui est en faveur de Bayamou. Moulengue qui pratiquement constitue un tiers du service de sécurité et a des postes stratégiques. La lecture que j'en fais, c'est que les Bayamoulengue sont toujours en bonne position. Ils maîtrisent l'armée, ils contrôlent une partie du service de sécurité. Ils ont la sympathie du pouvoir actuel, même si le président de la République a dit qu'il a annulé le décret installant le bourgmestre. Mais le gouvernement congolais est en bon rapport avec Kigali et Kigali qui est le parrain de cette structure de Bayamoulengue. Donc, pas grand-chose a évolué. Les Congolais devront encore batailler dur pour rentrer dans ce qu'ils pensent être leur droit.
La RDC s'est engagée depuis un temps dans le processus de décentralisation avec la création des nouvelles entités, des provinces et autres. En quoi, fondamentalement, l'élévation des Minembwe en commune rurale pose problème?
Deux titres. Premièrement, la procédure n'a pas été respectée. La loi dit que c'est au niveau de la province, c'est l'Assemblée provinciale qui fait la recommandation au niveau national après avoir consulté la population sur le terrain, ce qui n'a pas été fait. L'Assemblée provinciale du Sud qui vous avait recommandé de villes ou de territoires qui doivent ériger en commune rurale. Et Minembwe n'a pas été répertorié. Donc il y a eu tricherie déjà en amont. Et quand bien même que depuis 2013, le Premier ministre a signé décret, le gouvernement a reculé parce qu'il y avait eu des réactions au niveau de la population locale là-bas. La deuxième des choses, c'est que l'érection de Minembwe en commune rurale va aider à la réalisation d'un projet qui n'est qu'un secret de polichinelle aujourd'hui, parce que ça donne, premièrement, les Bayamoulengue revendiquent le territoire de Minembwe qui a été créé déjà par l'RCD, qui a été annulé finalement. Ils revendiquent le territoire de Minembwe comme leur terre d'origine. Et en mettant un bourgmestre, on a maintenant un pouvoir organisé sur cette population. Donc, en termes de l'autodétermination de peuple, vous savez que pour avoir un État, il faut au moins trois éléments essentiels, c'est-à-dire une population, les Bayamoulengue sont une population, un territoire, ils veulent avoir un territoire qui peut se revendiquer pour eux, un territoire d'origine, et de trois, un pouvoir politique organisé, donc un bourgmestre est reconnu par non seulement l'État congolais, mais aussi la communauté internationale.
Joseph Adolphe Voto, professeur de communication à Kinshasa. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sibudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.